En air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de cette nouvelle année 2013, dernière de vie sur Principe Actif, toujours avec votre trio de choc, les JFK. Salut Jérôme, salut Fred.
Salut.
Salut Kevin.
Alors, à l'émission du jour, donc, le sujet abordé, les OGM, avec l'étude choc de Gilles-Éric Serralini. Alors, OGM, oui Fred ?
Tout d'abord, on voulait faire un petit point sur l'actualité.
Bien sûr, mais j'allais y venir, bien sûr, avant tout ça. Donc, je rappelle donc, l'émission du jour sur les OGM et avant tout, une petite actualité. On va commencer, je crois, par Jérôme.
Oui, une actualité marquée par l'énergie, les préoccupations de différents pays sur l'énergie et notamment la Norvège qui se trouve, qui vient de se découvrir, non, qui vient pas parce que ça date des années 50, donc un potentiel énergétique nucléaire très important puisqu'il serait en fait, les Norvégiens seraient assis sur une réserve de thorium. Et oui, ça s'invente pas, ça vient de Thor. Le dieu.
Le dieu, Thor,
ouais.
Avec et le marteau.
Exactement, ouais. Et donc le thorium remplacerait l'uranium. Et donc il s'apprête à mettre en route un prototype financé par un certain nombre de pays européens, notamment la France. Voilà. Et puis l'Allemagne. Hein.
Mais et le Japon dans tout ça ?
Le Japon, a priori, s'apprête à reconstruire des nouveaux réacteurs, puisqu'ils avaient fermé tout.
Pourtant, oui, ils avaient mis le renoncement au nucléaire.
Voilà, ils avaient jeté les clés dans la mer.
Suite à la catastrophe, voilà. Exactement.
Puis il y a un poisson...
Qui a dû les remonter.
Voilà, qui les a remontés. Et donc, voilà, ils rouvrent des centrales nucléaires. Donc voilà, la Norvège, en fait, s'apprête donc à mettre en service son prototype. Et puis la société qui a été créée à cette occasion, ça ne s'invente pas, ça s'appelle Thor Energy.
Ok, voilà, d'accord. Voilà. Mais cette Thor Energy, c'est vraiment une énergie nouvelle ou c'est juste une appellation
Non, le thorium a une reconnaissance mondiale chez les physiciens, etc. etc. Bon, on ne me demande pas le symbole, je ne le connais pas.
Ok, mais est-ce que c'est le début de l'énergie propre du nucléaire ?
Bien sûr que c'est propre le
bien
nucléaire.
Ça
met pas de CO2, pourquoi
tu poses cette question ? C'est un dieu, Thor.
Et en plus, le thorium contiendrait pour la même quantité 120 fois plus d'énergie que de l'uranium.
Ah,
voilà. Donc il en faudrait moins.
Alors, okay. Ne vous inquiétez pas, Reva, la solution. Juste par rapport à ce problème suédois et japonais, et la même question se pose actuellement en Grande-Bretagne, c'est qu'en fin de compte, ils doivent jongler entre la peur du nucléaire et les engagements qu'ils ont pris sur les productions de carbone. Donc, ils sont en train de fermer toutes leurs centrales charbon. Et pour remplacer la production au charbon, le choix du nucléaire reste un choix qui est fait par certains pays. Quand l'Allemagne finance les centrales nucléaires, elle les finance en Suède, elle les finance pas en Allemagne. Donc c'est, je pense, encore quelque chose à suivre et à
surveiller. Mais la Grande-Bretagne, qui quand même est reconnue pour ses économistes, a fait un calcul et a démontré quand même que l'éolien coûtait cher. Donc voilà.
Pour parler de Grande-Bretagne, alors en effet, ils ont sans doute fait un calcul très intéressant sur l'éolien, puisqu'ils veulent relancer les centrales au gaz. Mais à côté de ça, en Angleterre, c'est le premier pays qui a commencé à démanteler sérieusement des centrales nucléaires. Ils ont trois centrales nucléaires qui sont en cours de démantèlement. Ils sont arrivés déjà à une facture de 50 milliards. Et,
ils en 50 ont... milliards pour le démantèlement
Oui, et ils en ont pour 50 ans. C'est-à-dire que dans 50 ans, ils vont arriver au cœur des centrales. Donc,
alors attends, 50 milliards par an ?
Ah non, 50 milliards.
Alors
c'est l'enveloppe globale qui est pour le démantèlement de trois centrales nucléaires.
Enfin, moi, je voudrais souligner un autre point concernant le secteur énergétique en Grande-Bretagne. Et là, ça va vous surprendre. Vous êtes prêts ?
Oui.
L'État britannique est prêt à introduire de la régulation dans le secteur énergétique. Et oui, ce n'est plus ouvert à libre concurrence, sans régulation, etc. Et ils sont même prêts à fixer un prix de rachat d'énergie verte sur le long terme. Des prix administrés en Grande-Bretagne, qui l'aurait cru?
Ouais, ouais, exactement, c'est plutôt...
Voilà. Margaret, donc, elle doit faire la tête.
Ouais, ouais.
Autre sujet, je crois qu'on devons parler normalement des forêts, mais avant tout d'un autre sujet, Fred.
Non, a priori les forêts. Moi, j'ai une petite annonce à faire, mais je la ferai à la fin. Donc sur les problèmes des forêts liées à la sécheresse à la surface du globe, actuellement, je crois que 80% des forêts sont dites en danger et elles sont mises en danger directement à cause du manque d'eau, la pénurie d'eau. Alors encore une fois, ce fameux réchauffement climatique qui frappe de plein fouet la nature et à travers les forêts. Et les forêts, ça représente, alors on appelle ça le poumon de la Terre. En fin de compte, le poumon de la Terre serait plutôt les océans, mais on sait aussi que les océans sont mis en danger par la surexploitation de l'homme. Donc ça pose pas mal de questions sur l'avenir de notre planète.
Merci.
Et les forêts, donc pour revenir au mal dont les arbres souffrent, en fait, ils souffriraient d'embolie.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une embolie?
Bon, en fait, on va faire la comparaison avec les humains. C'est une bulle d'air qui est dans les circuits. Bon, là, c'est dans
les vaisseaux.
Dans les vaisseaux, là, c'est dans la sève. Et donc, qui bloquerait les possibilités de respirer, de se développer des arbres. Et donc, qui dépérirait.
Alors, mais voilà. Ça, c'est une maladie qui est nouvellement apparue.
Qui est liée, donc, comme le disait Fred à l'instant, voilà, au manque d'eau, au réchauffement, etc. Donc, voilà, il y a un phénomène chimique qui crée cette embolie.
Bon, bah, disons que c'est pas des bonnes nouvelles. On va continuer dans les mauvaises nouvelles donc, du ministère qui nous a donné de faire donc, une directive. Je vous en parle, donc un nouveau phénomène après le bisphénol A, le monoxyde dihydrogène. Donc qu'est-ce que c'est que le monoxyde dihydrogène? Un composé chimique incolore et inodore, également dénommé par certains oxydes dihydrogène, hydroxyde d'hydrogène, hydroxyde d'hydronium ou simplement acide hydrique. Son constituant de base est le radical instable, l'hydroxyde qu'on retrouve dans de nombreux composés caustiques, explosifs et toxiques tels que l'acide sulfurique, etc. Je vous passe la suite du descriptif. La question que devez-vous poser, est-ce que vous pouvez vous sentir concerné par le monoxyde dihydrogène?
Donc c'est un truc corrosif, qu'est-ce que tu as dit encore?
Ah bah alors tu vas voir, mais j'y arrive. On le retrouve partout. On le retrouve donc, on peut le retrouver dans les décès dus à l'inhalation accidentelle, même en faible quantité. Exposition prolongée à sa forme solide entraîne des dommages graves des tissus. L'ingestion en quantité excessive donne lieu à un certain nombre d'effets secondaires désagréables, bien que mettant pas habituellement en cause le pronostic vital. Le monoxyde d'hydrogène est un constituant majeur des plus acides. Sous forme gazeuse, il peut causer des brûlures graves. Il entraîne la corrosion et l'oxydation de nombreux métaux, a été trouvé dans les biopsies de tumeurs et des lésions précancéreuses. Et des variations de température du monoxyde d'hydrogène sont soupçonnées de contribuer au phénomène climatique El Niño. Donc sur la base de cette description, des pétitions demandent son interdiction et recueillent actuellement de nombreuses signatures de toutes les personnes inquiètes. Bon, bien sûr, bah voilà, inquiétez-vous. Je pense qu'il y a un service des requêtes sur le site du ministère du gouvernement. Voilà, c'était une information publique.
Moi, j'ai juste une petite information locale à ajouter derrière ce bien triste tableau. C'est juste une invitation à une manifestation organisée par Sortir du Nucléaire demain à Rouen. sur la sortie du nucléaire militaire et civil à Rouen demain à 15h.
Ok, merci bien messieurs, tout de suite une page musicale et après on commence avec le sujet du jour, les OGM et la fameuse enquête de Gilles-Éric Serralini.
I decide to live without.
Rebonjour à tous dans votre émission d'un air de vie sur Principe Actif. Donc, je rappelle le sujet du jour, les OGM et la fameuse étude de Gilles-Éric Séralini. Donc, une véritable bombe qui a été lancée le 19 septembre à 15h. Je crois que Fred, tu vas nous en dire un petit peu plus.
Alors, j'aime bien le à 15h. Ça montre un peu la précision.
Ah, c'était précis.
Ça devient un événement.
C'était planifié, voilà. On peut le dire. Hein.
Donc, oui, la présentation de cette étude au mois de septembre dernier. Donc, c'est une étude qui a été faite par Gilles-Éric Séralini, un chercheur cannais. Et pas canois. Il est apparu sur tous les écrans et à ses côtés, il y avait le docteur Spirou, qui est un médecin hébroïcien.
Ah, quand même.
Et donc, ça nous faisait un peu. Enfin, ça rapprochait un peu ce sujet national de notre belle contrée.
Mais qui c'est ce monsieur Spirou qui bosse à Évreux ?
Alors, c'est un médecin ostéopathe que je ne connais pas plus que ça par ailleurs. Par contre, il intervenait sur cette étude en tant que président du CRIGEN.
Alors, président du CRIGEN. Voilà.
Le CRIGEN, c'est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique.
Et donc, c'est une association qui a été créée.
C'est une association.
Je ne sais plus en fait. Je te lance.
Voilà, le docteur Spirou intervient. Lui, il est médecin, il n'est pas chercheur.
Homéopathe, mais, par contre, en précision, pas ostéopathe.
Il n'est pas.
Bon. Ah, pardon, je me trompe peut-être.
C'est pas grave.
C'est pas grave. On ne donnera pas son numéro. Il était proche de nous. Donc, nous sommes allés le rencontrer le 20 novembre dernier à l'occasion de la projection du film Tous Cobayes. Et à l'issue de la projection de ce film, qui présentait. L'enquête, nous avons essayé de le rencontrer.
De le rencontrer. Bah, tout de suite, on va vous passer la bande-annonce de ce film. Choc.
Après l'explosion d'Hiroshima, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain. Et donc, du coup, la naissance des OGM.
Ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, c'est l'irréversibilité.
Le nucléaire, ça veut dire opacité, ça veut dire secret, ça veut dire mensonge.
Un OGM est un brevet, vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet.
Si vous vous laissez envahir par les OGM qui sont fabriqués pour venir envahir les pays sous-développés, vous avez la corde au cou pour de bon.
Quels sont les risques des OGM sur la santé ? Personne n'en sait rien. Quoi.
Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. Très clairement aujourd'hui, il y a des risques graves.
Les semenciers s'opposent à donner leur OGM pour qu'on les teste.
Les premiers qui ne veulent pas de la recherche, c'est eux.
C'est une expérience qui est la plus longue au monde.
Le résultat ne m'appartient pas, ça appartient à la société. C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on ne veut pas de ces produits.
Cette étude est vraiment quelque chose d'historique.
Alors, OGM, organisme génétiquement mortel ou juste modifié, Fred ?
Bah écoute, après le visionnage de ce film, on a rencontré brièvement le docteur Spirou et on a espéré pouvoir l'inviter dans cette émission. C'est quelqu'un qui a un certain aura national et on espérait quand même assez peu pouvoir le recevoir dans nos studios.
Ah, ça aurait été bien, on aurait été content quand même, un hébroïcien à parler du sujet.
Oui, là on aurait été dans l'actu nationale. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais on a décidé quand même de parler des OGM et de rebondir sur cette polémique.
Alors, pour faire un petit peu de pédagogie, ça serait bien d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'un OGM ?
Alors, un OGM, comme tu l'as dit, c'est un organisme génétiquement modifié. Alors, sur la définition, justement, ça pose déjà un problème parce que l'homme de tout temps a toujours essayé de manipuler la nature. Depuis la préhistoire, il a sélectionné les meilleures graines, les meilleures espèces afin d'augmenter la production de ses fermes ou de son agriculture. Très rapidement, avec les nouvelles découvertes, on a découvert de nouvelles plantes qu'on a essayé de croiser. Tout le monde connaît la fameuse clémentine qui serait le croisement de la mandarine et de l'orange douce opéré par le père Clément. Depuis toujours, l'homme essaye de manipuler un petit peu la nature, mais tout a été accéléré avec la découverte dans les années 60 de l'ADN. L'ADN, la pierre de base de la génétique de tous les êtres vivants. et à travers l'ADN, la structure avec les fameux gènes. Et dans cette découverte, on a découvert que l'ADN était présent dans tous les êtres vivants. Et on a commencé à se poser la question du transfert d'un gène. Avant, le travail sur l'hybridation, c'était sur deux espèces proches. Là, on s'est posé la question du transfert d'espèces très éloignées. C'est ce qu'on appelle le transfert d'un gène, c'est ce qu'on appelle la transgénèse, qui a eu lieu la première fois en 1973. À partir de 1978, on a eu la première expérience qui était vraiment parlante pour nous. C'est-à-dire qu'on a réussi à transférer le gène humain de la production d'insuline dans une bactérie. Et grâce à ce transfert, la bactérie s'est mise à produire de l'insuline qu'on pouvait injecter directement dans le traitement du diabète. Suite à ça, on a retrouvé un autre vecteur de transfert pour les végétaux. Et là, à nouveau, de nombreuses découvertes ont été faites et de la création de nouveaux organismes génétiquement modifiés, notamment la tomate, le maïs, le coton, le colza, qui ont été très, très vite mis en culture en Amérique du Nord. Parallèlement à ces découvertes, il y a eu le droit s'est mis en place avec, dès 1980, la Cour suprême des États-Unis qui admet le principe de brevetabilité du vivant. C'est-à-dire que quand une société transfère un gène et donc crée une nouvelle séquence ADN, elle peut la breveter. Et à partir du moment qu'elle a le brevet, toute personne qui fait pousser de manière volontaire ou involontaire cet OGM chez lui doit payer une taxe annuelle pour valider.
Le droit d'utilisation.
Voilà, il doit payer un droit d'utilisation. Ça s'est développé dans les années 80. Au début, l'Europe a été assez... a freiné un peu les cas de fer, mais depuis 1992, ce principe est aussi admis en Europe, sauf pour le génome humain. Et à travers ça, cette possibilité de brevetabilité ouvre
de nouvelles perspectives.
Des perspectives financières énormes pour tous les céréaliers. Et, parce que c'est surtout sur le développement des céréales que...
Mais comment faisaient les semenciers avant la venue des OGM pour se financer?
Bah, c'est-à-dire avant ils vendaient simplement leurs semences et l'agriculteur voulait replanter ce qu'il avait récolté, c'est-à-dire il n'était pas obligé de réacheter systématiquement au semencier. Ce qui se passe actuellement, c'est que le producteur sème, il récolte, s'il veut ressemer ce qu'il a récolté, il est quand même obligé de repayer un droit d'utilisation.
Donc il devient directement dépendant du semencier.
De manière annuelle.
Ok. Petit instant musical, je crois que Jérôme, tu voulais peut-être...
On va attendre la pause musicale.
Ouais, on attend la pause musicale. C'est parti. Berimbo, c'est parti pour Vinicius de Morales.
Vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem
Retour sur Un air de vie, toujours sur Principe Actif. Et nous allons tout de suite enchaîner avec Fred qui va nous parler de Gilles-Éric Séralini.
Et de son expérience.
Et de son expérience très controversée donc sur la culture des OGM. Donc Gilles-Éric Séralini qui est donc chercheur à l'INRA de Caen et qui travaille normalement sur les pollutions environnementales, c'est-à-dire ce qui déclenche les maladies de l'environnement avec les particules qu'on trouve dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture. Et donc il a mis en place une expérience sur le fameux maïs génétiquement modifié NK603 et sur l'effet combiné avec l'herbicide Roundup.
Alors le Roundup et le maïs NK603, c'est Monsanto.
Oui, alors je ne sais pas si on a le droit de dire le nom des céréales.
Ah, on peut le dire.
Il y a eu un petit bruit au moment où tu le disais.
J'étais bon,
tu peux continuer.
Ah, mais je crois qu'on peut le
dire.
C'est
bon, on est couvert. Voilà. Oui, parce qu'ils sont puissants. Donc, c'est une enquête sur la dangerosité du maïs dans la consommation.
Une enquête, mais une enquête digne...
Une enquête, c'est une expérience.
Une expérience scientifique.
Alors. Scientifique, mais digne d'un film un peu hollywoodien, parce que c'est une expérience qui a été faite, on va dire, sous le manteau, cachée de Monsanto, parce qu'ils ont du mal à avoir les semences de Monsanto pour pouvoir faire l'expérience dessus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de détails
dessus ? Ouais, ça s'est déroulé comment, en fait ? Alors, il l'a fait sur ses étudiants, Séralini, ou pas, c'est l'expérience ?
Il l'a fait sur une souche de rat.
Oui, la fameuse souche de rat Sprague Dawley.
Voilà. Je te préfère quand tu le dis.
Merci.
Donc sur une souche de rat, et en fin de compte, la problématique de cette expérience, le point essentiel, c'est qu'au lieu de tester sur 90 jours, ce qui est le modèle habituellement accepté par tous, c'est le modèle obligatoire dans les règles.
Là, il l'a fait sur une période beaucoup plus longue, de 2 ans.
Éric Séralini a décidé de tester ses produits sur 2 ans. 2 ans, c'est en gros la durée de vie du rat et ça permettait de voir un peu les effets à long terme de la consommation de maïs OGM couplé toujours avec la présence de l'herbicide.
Excuse-moi Fred, mais ça considère quoi ? Il aura fait des pop-corns tous les jours au rat ou...
Alors, peut-être. Franchement, le protocole expérimental est souvent assez compliqué à expliquer. Hein.
On peut le dire.
Donc, les rats ont mangé brièvement du maïs.
Il a fait une expérience avec 200 rats. Il a fait donc une expérience avec un groupe témoin donc de 10 mâles et 10 femelles qui ont mangé exclusivement d'une nourriture qu'on peut considérer comme neutre. Et les autres rats ont eu, bien sûr, par contre, du maïs génétiquement modifié, mais sans le Roundup, du maïs génétiquement modifié avec le Roundup avec, et aussi, simplement, des rats qui ont simplement ingéré du Roundup, tout simplement.
Et le rat au Roundup grandit plus vite ?
Alors, si vous avez vu ces images, c'était quand même un peu choc. Je sais pas si Jérôme, tu as quand même vu un peu ces images à la télé, non ?
Bah non, mais j'ai pas la télé.
Ah, mais c'est pas possible. Et dans les journaux, tu n'as pas vu imprimé dans les pages des journaux les tumeurs des rats énormes qui font plus de 25% leur poids ? Tu n'as pas vu ça ?
Non, parce que je suis abonné à la Gazette de Monsanto et c'était censuré ce jour-là.
Donc aïe, dommage. Bah, d'ailleurs, Monsanto n'a pas réagi suite à cette étude. Hein, petit rappel, alors que généralement, dans ces affaires-là ou pour d'autres affaires...
Et donc des tumeurs horribles,
ils réagissent.
Pire que ce qu'il y a sur les paquets de cigarettes, alors ?
Franchement, c'était plutôt incroyable. Un peu moins trash quand même de ce qu'on a sur les clopes, mais vraiment très, très, très spectaculaire. Et donc finalement, il y a quand même une petite question qui s'est posée et on a une réaction tout de suite de la communauté scientifique sur le protocole de l'expérience et sur les résultats annoncés de l'expérience.
Oui, tout de suite. Enfin, il y a eu un débat entre guillemets d'experts.
On peut le dire tout de suite, hein, c'était direct quand même, la réaction un peu même. Peut-être trop rapide même.
Alors tout de suite derrière, mais parce qu'en même temps, toute l'équipe avait choisi de mettre un protocole de publication un peu exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils avaient gardé toute l'information. Normalement, avant de publier, on communique avant pour que les gens aient le temps de répondre. Donc là, ils avaient gardé secret et les personnes qui avaient le droit d'accès à cette étude avaient l'obligation de se taire. Donc... c'était vraiment histoire de lancer un pavé dans la mare. C'était revendiqué.
Ouais, il y a un grand champ.
C'était revendiqué. C'est vraiment dans la démarche. C'est vraiment ce qui apparaît dans le film Tous Cobayes, où ils ont vraiment une volonté, entre guillemets, pour eux, pour les personnes de cette équipe. Depuis des années, ils ont sorti des études pour prévenir sur les dangers potentiels de certains OGM, parce qu'il faut bien marcher sur... Là, on est sur un type de maïs qui est ce qu'on appelle random friendly, c'est-à-dire ami du Roundup, c'est-à-dire qu'il va fonctionner en parallèle. Et pour eux, depuis des années, ils communiquent là-dessus et il n'y a aucun retour nulle part. Donc, ils ont décidé de faire une intervention un peu choc pour faire réagir la communauté scientifique et aussi la communauté, le citoyen lambda qui puisse réagir par rapport à ça. Et on peut dire que ça a plutôt pas mal marché, puisque c'est pour une publication scientifique, il y a eu quand même un gros retour au niveau national.
Alors, énorme retour, mais surtout médiatique. Mais ce qui est plutôt étonnant d'un point de vue scientifique, c'est que, au contraire des dires des auteurs de cette étude, ce n'est pas la seule étude sur les OGM. Et il y a eu beaucoup d'études. Plus de 25 études ont été faites dans les 4 dernières années sur les OGM. Alors, le reproche que fait Seralini, c'est que ce n'était pas toutes des études donc, de toxicologie, mais la majorité plutôt de nutritionnelle. Soit, mais il faut quand même un petit rappel qu'il y a eu des études donc sur les porcs de plus de sur une période d'un an. Bon, alors c'était pas les 2 ans sur les rats. Il y a une période sur de 25 mois sur des vaches. Alors la réponse de Seralini sur ces dires dit que 2 ans c'est la vie entière d'une souris, alors que 25 mois ce n'est pas tout à fait. Alors on arrive tout de suite à la problématique de cette expérience, c'est que le dire de Seralini, c'est justement le problème de ce produit, du Roundup, c'est que là, on n'a jamais fait d'expérience à long terme. Et là, donc, c'est la première, entre guillemets, expérience sur le long terme, en fait, sur une vie entière d'absorption d'un produit.
Oui, alors, c'est... L'expérience en elle-même, c'est vrai que, après, moi, sur le débat scientifique, je ne vais rien dire parce que je n'ai pas grand-chose à dire, à part à travers ce que je lis. Mais bon, c'est en fonction de nos lectures, on est souvent aussi un petit peu orienté. Mais derrière ça, je pense que Seralini, ce qui pose comme problème, c'est actuellement la mise sur le marché d'un OGM s'appuie uniquement sur des recherches faites par le laboratoire qui met en place OGM, par un souci de secret industriel. Et derrière ça, si ce n'est pas le laboratoire qui le fait directement, c'est un laboratoire de recherche qui est financé intégralement par le laboratoire qui met en place. Donc, la question qui se pose, au-delà des études scientifiques elles-mêmes, c'est un petit peu qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces gens-là. Est-ce qu'on peut leur donner une carte blanche pour dire oui, quoi qu'il arrive, ils nous diront la vérité.
Donc, son objectif, ce n'était pas vraiment de sortir une vérité scientifique sur la nocivité des OGM, mais plutôt de mettre un doute sur les protocoles d'acceptation, etc.
Son discours dans le film, c'est vraiment ça. C'est dire, si vous dites que moi, j'ai tort, prouvez-le-moi, faites la même étude, mettez plus. Lui, son étude sur 200 rats, ça coûte 3 millions d'euros. C'est quand même quelque chose d'important à trouver. Lui, il dit, en gros, mettez 10 millions et prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que mon étude est fausse. Et en fin de compte, lui, ce qu'il cherche, en gros, c'est à lancer le débat, à faire évoluer les choses sur la mise en place des OGM. Enfin, c'est comme ça que moi, je le perçois.
Moi, je trouve que ouais, c'est une bonne perception in fine. Mais pour rappel quand même, parce que de son expérience, d'un point de vue de la communauté scientifique, c'est quand même la dragée n'est... Enfin, c'est pas passé, quoi. C'est pas passé parce que dans son expérience, et même, faut quand même rappeler que son étude a été réfutée. A été réfuté par justement une question de protocole. Et en fait, ce qu'il annonce par cette étude, c'est une suggestion de la toxicité du Roundup dans une consommation pour les êtres humains. Et cette suggestion, qui n'est pas prouvée par cette étude, alors que au contraire, il faut se rappeler de la une qui a été dans le Nouvel Obs, OGM, le poison, c'était pas marqué, ou tous des poisons, ou un truc comme ça, le titre. En gros, alors que ça, ce n'est pas un lien direct de causalité qui a été prouvé par son expérience. Il y a différentes, entre guillemets, tares de son expérience scientifique qui ont été mises en avant, d'ailleurs par des toxicologues qui ont le protocole de toxicologie. Et on va revenir sur les problèmes de statistiques avec le faible niveau des groupes témoins, où justement on ne peut pas évaluer une généralité en prenant seulement 10 individus, en fait, donc en l'occurrence là, 10 rats, pour faire une généralité des groupes témoins. D'ailleurs, il faut rappeler que c'était une espèce de rat, en fait, qui est utilisée en toxicologie, par leur haute sensibilité aux produits toxiques, ce qui permet en fait d'étudier les phénomènes et ses comportements. Sauf qu'en faisant cette expérience jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la durée de vie des rats, ces rats-là meurent tous de tumeurs. Des tumeurs qui sont décrites des effets...
Même s'ils n'avaient pas mangé du pop-corn de Monsanto, c'est
ça. Mais d'ailleurs, dans son étude, même des chiffres donnés par Seralini, ils ont des tumeurs aussi. D'ailleurs, dans ces groupes témoins, il y a même un groupe témoin qui a plus de cancer que celui qui mange des OGM, parce qu'il y en a plusieurs des groupes, dans son groupe témoin, qu'un qui mange un OGM. Donc,
ça veut dire qu'il y a un scientifique français du secteur public... Qui a faussé la démarche et résultat. Fred.
Et justement, non, parce que finalement, ces résultats, il les publie en intégralité. C'est-à-dire que toute personne qui va vouloir aller vérifier ses dires, aller voir les courbes, aller voir les graphiques ou les diagrammes, il va pouvoir le faire. Mais sauf que personne ne le fait. Une fois qu'on a vu la photo du rat avec les tumeurs, une fois qu'on a entendu un discours, le citoyen lambda, il ne va pas se poser la question de la véracité ou pas au niveau scientifique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le groupe est correct ou pas? Cette question-là, en fin de compte, elle est complètement éludée. Ce qui est important, c'est cette image choc, ce mode de communication qui va permettre. Il est revendiqué clairement par Séralini.
Donc parce son but, c'était de faire un buzz. C'est ça, un buzz médiatique.
Il a décidé de faire le buzz.
Ouais. Bah on y arrive justement. C'est vraiment un réel buzz médiatique. Car en ce sens-là... comment il a pu annoncer cette nouvelle et faire, parce qu'en fait tu disais bon, c'est un... en fait avec ce que tu as dit Jérôme, on se dit c'est pas possible, un scientifique il peut pas dire des bêtises, il peut pas dire des conneries, c'est ce que tu veux dire?
Exactement,
en fait,
un peu plus du secteur public.
Et bien justement, moi personnellement, quand on voit cette affaire là, il y a pourquoi le soupçonner de faire en fait de fausser des résultats? Il ne fausse pas ses résultats, il les donne, ses résultats. Ce qui est contredit, c'est l'interprétation des résultats. Et suite à son expérience, il montre des choses, il suggère des choses d'un point de vue scientifique, mais il ne l'a pas démontré.
Mais donc,
voilà la nuance.
Mais ce qu'il y a aussi, donc ça s'est accompagné d'une forte médiatisation, c'est ça?
Alors cette forte médiatisation, c'est même pas une forte médiatisation. Alors on connaît que les médias, d'ailleurs, ils sont toujours friands de niveau de sensationnel.
Mais lui a été moteur, parce qu'il a donné des... Il y a déjà des résultats qui sont sortis même avant...
Alors, non, le truc vraiment qui a vraiment courroucé le milieu scientifique et la presse scientifique généraliste, c'est qu'il n'a pas, en fait, mis... il les a pas... En fait, il a fait une conférence de presse pour les apporter, il les a mis sur le fait. Et comme par hasard, au moment a été publié... Mais attends, je finis ça. Au moment... Attends, son étude a été publiée donc, dans une revue américaine. Là, je recherche le titre de cette revue américaine.
Food and Chemical Toxicology.
Voilà, chemical. Merci beaucoup.
Chemical.
Le jour a été publié, le même jour, dans le Nouvel Obs, il y avait l'article avec les résultats de l'analyse. C'est impossible. Dans le milieu des journalistes, on ne fait pas... vous savez, au niveau de la presse, c'est déjà imprimé avant. Donc, il y a une réelle volonté de créer un buzz, de ne pas communiquer les résultats aux autres communicants du monde scientifique et de créer un buzz vraiment médiatique.
C'est ce qu'on appelle une campagne de communication. Et je crois que Séralini l'a faite de manière complètement volontaire, complètement assumée. Parce que l'exclusivité...
Et le Crigène qui est derrière, et Corinne Lepage.
L'exclusivité pour le Nouvel Obs était signée. Enfin, tout ce qu'ils ont fait était signé. Ils sont arrivés à leur fin. C'est-à-dire, on parle d'eux et ils ont créé, en effet, le buzz. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, History has banned that stage, The mini skirts, the current thing. Teeny bopper is our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on.
Bonjour à tous, retour dans votre émission de Principe Actif, toujours donc avec votre trio les JFK sur le sujet du jour, les OGM. Et les OGM, donc le poison, un sujet qui fait plutôt peur. Et d'ailleurs, Serralini, on peut le dire, il a vraiment accentué là-dessus, les journalistes, le bouquin, le film. Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette corde utilisée par la peur? On a l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, que c'est pas la première fois qu'on nous assène une vérité comme ça.
Totalement. Et la controverse sur les OGM, en fait, elle n'est pas récente. Hein. Il y a vraiment un développement à partir des années 95-96, un développement qui coïncide avec une autre crise, celle de la vache folle. Alors, je vais revenir un petit peu sur la crise de la vache folle. Bon, je pense qu'on a tous en tête ce que c'est, mais bon, je vais y revenir un petit peu, notamment avec des dates bien précises. Par exemple, le 20 mars 96, le ministre britannique de la Santé annonce qu'il y a une très forte probabilité de lien entre la nouvelle maladie dite de Creutzfeldt-Jakob et l'exposition à l'agent pathogène de l'encéphalite spongiforme bovine, la maladie de la vache folle. Grosso modo, on filait à manger donc aux bovins, aux vaches et aux bœufs de la farine animale qui n'avait pas été stérilisée ou pasteurisée.
Mais, attends, je comprends pas, mais j'ai jamais vu de vache manger de la farine dans les champs, moi. D'où elle vient la farine?
Ah bah si, je t'assure, moi je vois.
C'est vrai, elle mange de la farine animale?
Ouais. Tout à fait, j'ai jamais vu des cultures de farine animale. Donc en fait, il y a cette crise de la vache folle, il y a une forte médiatisation, il y a tout un débat, il y a notamment un débat à partir de la crise de la vache folle sur le dysfonctionnement des filières d'approvisionnement d'aliments en bétail. Il y a des faillites, des dispositifs nationaux et communautaires de gestion des risques sanitaires. On ne sait pas comment, quelles mesures prendre de prévention, etc. Et puis, il y a l'impuissance des scientifiques. Et ouais. L'impuissance des scientifiques et des agences de contrôle à évaluer clairement l'origine du risque. Donc en fait, il y a une médiatisation énorme autour de la vache folle sur donc ces risques sanitaires, etc. Et au même moment, arrivent en Europe, dans plusieurs ports, notamment le port de Saint-Nazaire, les premiers cargos provenant des États-Unis avec du soja transgénique. D'une part, puis d'autre part, il y a des sociétés, dont une dont on a déjà parlé, Monsanto, mais il y a aussi Novartis, enfin qui n'est pas encore Novartis, mais qui le deviendra, qui dépose des dossiers de demande de mise sur le marché de plantes transgéniques. Et donc, il y a des associations qui se saisissent de ça, il y a des politiques, et puis, bien sûr, il y a encore une médiatisation. Et donc, la presse fait même les premières pages. Ainsi, Libération, 1er novembre 1996, titre, donc première page, hein, alerte au soja fou.
Ah.
C'est quand même révélateur. Hein. Ouais. Donc on est passé de la vache folle au soja fou. Mais sans connaître les effets des OGM, donc il y a un amalgame, c'était. Et donc le Monde poursuit, le Monde titre, le colza transgénique laisse échapper ses gènes. Parce qu'en fait, de quoi est-ce qu'on a peur, au bout du compte?
Justement, de quoi on a peur?
Et ouais, de quoi on a peur?
On a peur on a peur du voilà. Monstre.
Alors vis-à-vis des plantes transgéniques, des plantes transgéniques, en fait, il y a deux peurs. Il y a celle sur la santé, comme il y a pu avoir la vache folle. Et puis, la dissémination de ces gènes qu'on a prélevés, qu'on a remis dans d'autres plantes, leur dissémination dans la nature, sans contrôle. Est-ce qu'on ne va pas créer, cette dissémination, on ne va pas créer des plantes bizarres, à la limite de Tchernobyl, quoi, hein, vraiment, il ne faut pas avoir peur des mots, je crois, hein, mais vraiment des trucs vraiment bizarres. Hein. Et donc...
Mais alors, attends, on peut quand même préciser que c'était une peur qui n'est pas très rationnelle, parce que par exemple, même si on parle de Tchernobyl en faisant vite fait une petite parenthèse, mais généralement, quand on a peur, on a des éléments de peur. Il faut quand même qu'il y ait du noir, il faut qu'il y ait des bruits, il faut qu'on ait vu des débuts de modifications génétiques, des débuts de monstres. Là, pour l'instant, on n'a jamais vu aucune modification.
Enfin, on a vu des malades atteints de l'encéphalite... la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Ah oui, ça c'est différent. Ouais,
non, mais
ça, c'est
alors, différent. Au-delà, au-delà de ce qu'on a vu, on sait qu'on met dans la nature un produit génétiquement modifié, donc ce produit il va se disséminer, il va proliférer, et en fin de compte on est dans le doute. On peut pas dire non. On sait qu'on va mettre quelque chose de nouveau dans la nature et on sait pas. Enfin, la contamination des OGM, elle est
peur,
évidente.
Cette peur, aujourd'hui, il y a donc un amalgame avec la crise de la vache folle. On n'a pas contrôlé les effets sanitaires, etc. de la vache folle. Est-ce qu'on n'est pas dans le même contexte, dans la même situation avec les plantes transgéniques? Donc, je pense que la population se pose des questions légitimement et bon, les médias, plutôt que d'apporter des réponses, donc alimentent cette psychose, cette peur, etc.
Là, on se demande ce que font les médias.
Et puis, il y a d'autres actions qui vont amplifier cette peur, on va dire. Bah, déjà, il y a les faucheurs.
Ah, alors là, oui. Alors, les faucheurs, franchement, mais Fred, qu'est-ce que tu en penses des faucheurs ?
Alors, qu'est-ce que j'en pense des faucheurs ? Parce que la question qui est derrière le fauchage des champs de maïs, il y a plusieurs questions qui sont posées, mais la première question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut se permettre de faire l'expérimentation en plein champ ? Dans quelle mesure on va faire des expériences un monde ouvert ? C'est-à-dire,
la majorité des gens ont peur des OGM, mais plutôt pour une utilisation des OGM in vivo, en gros, je pense que personne n'a vraiment peur de ce qu'ils font en laboratoire. C'est à peu près ça, quand même.
Bah, puis surtout, tout ce qui se passe depuis les années 90 sur les OGM, c'est tout ce qu'on met dans les champs. Le risque potentiel, je veux dire, on ne l'a jamais évalué avant. S'il y a un risque, on va le découvrir après, qu'il arrive. C'est-à-dire quand on va développer le vaccin sur la rage, on va être dans un lieu clos, on va mettre un dispositif en place, on va mettre des injections, tout ça. Si ça ne marche pas, c'est fermé. Là, ce qui se passe avec les OGM, c'est que c'est mis en plein champ. Ça peut être mis à côté de chez nous. Si ça ne marche pas, il n'y aura rien pour l'arrêter. Je veux dire, ce n'est pas un moment où on va dire bon, bah, c'est bon.
Mais même chose quand le maïs hybride était arrivé après la guerre et qu'on fallait faire des grandes cultures. Et des gens étaient contre cela et disaient mais vous ne savez pas, ça va se disséminer, on va perdre le maïs d'origine, la culture et machin. Il y avait même des gens qui disaient que ça apportait des modifications pour les poules, etc. Et finalement, cette peur s'est révélée infondée. Alors, est-ce qu'on doit s'interdire de faire les choses au nom d'une peur
Alors, il y a donc c'est vrai qu'il y a aussi clairement une peur d'atteinte à la biodiversité. Mais ça, je veux dire que ça va mobiliser des associations environnementalistes, essentiellement. Et justement, pour revenir aux faucheurs, donc je rappelle que ça se passe en 97 et en 98, avec une figure emblématique, José Bové.
Oui.
Mais,
fauché à McDo aussi, mais...
Voilà. bien sûr... une des motivations des faucheurs était d'alerter tout le monde. Et avec, bien sûr, il y avait une forte médiatisation. Bien sûr, ils n'y allaient pas la nuit, cagoulés, etc. Il y avait des médias qui étaient là. Mais une des raisons pour lesquelles les faucheurs sont intervenus, c'est que normalement, les terrains sur lesquels ont été faites ces cultures de plantes transgéniques, normalement, c'était une information qui pouvait être rendue publique. C'est-à-dire que les mairies des communes où avaient lieu ces cultures de plantes transgéniques pouvaient donner l'information que sur telle ou telle parcelle, il y avait cette culture, sans restriction, à n'importe qui le demandait. Sauf qu'il y a eu une sorte de blocage de l'information, et les faucheurs avaient aussi ce but d'alerter sur le fait qu'il n'y a rien de public.
Alors, oui, mais moi, ça me pose quand même un petit problème éthique au niveau de ces faucheurs. Ce que je ne comprends pas, c'est... comment ça se fait qu'aujourd'hui on arrive, on jette un pavé dans la mare pour entre guillemets donner un bon sens même à la science, pour essayer de voir les choses différemment et en faisant une expérience entre guillemets soi-disant jamais faite auparavant, alors que les expériences étaient en cours. Il y a eu des expériences en cours et qu'on a arrêté. On ne peut pas avoir les résultats qui étaient faits par l'INRA justement à cause des faucheurs. Et on aurait pu même avoir des résultats de toxicologie, de toxicité pour l'être humain et ainsi de suite. Et ça, toutes ces années de recherche, par financement public, ont été balayées par des faucheurs. Mmh. Au nom de quoi ? Juste du nom OGM.
Bah, elles ont été... Voilà, peut-être, mais il n'y a pas seulement ça. C'est qu'à un moment, je pense qu'ils ont essayé d'alerter, mais parce qu'aussi... À un moment, les pouvoirs politiques, les autorités, n'ont peut-être pas réagi comme ces associations le souhaitaient ou attendaient, et comme la police. Alors, par exemple, si on prend le cas en France, donc je rappelle qu'en 1995 est intégré donc dans la Constitution française le principe de précaution. Normalement,
le fameux principe de précaution.
En vertu de ce principe de précaution, si on n'a pas de certitude scientifique, on ne fait pas.
Alors, oui, mais il faut quand même rappeler qu'en science, il n'y a jamais aucune certitude pour... il n'y a pas de risque zéro. Ça, c'est un fait, Fred.
Oui, mais après, alors le problème, il est là. C'est où est-ce qu'on met la science, où est-ce qu'on met la société ? Ce qui est intéressant, là, par rapport à ce que tu vas pouvoir développer, c'est justement, après la crise de la vache folle, justement, il y a une remise en cause de la vérité scientifique, parce que la vérité scientifique, elle n'existe pas. Et c'est après comment des découvertes peuvent être... mise en place dans une société. Et suite justement à la crise de la vache folle et à la mise en place des OGM dans les années 96, il y a eu la mise en place d'un comité...
Voilà, d'une conférence citoyenne. Effectivement, là, c'est vraiment l'expertise scientifique qui a été remise en cause. Avant, par exemple, enfin, s'il n'y avait pas eu la crise de la vache folle, etc., s'il n'y avait pas eu les faucheurs, l'autorisation de mise sur le marché des OGM se serait décidée dans un bureau, à la vue d'expertise scientifique, etc. Là, non. Il y a vraiment maintenant, enfin, c'est tous ces éléments, cette crise, etc., ont ouvert un débat public sur des choses scientifiques et pour orienter des choix politiques. Et notamment ces choix politiques, bah, les autorités françaises, enfin les choix qu'elles ont faits, illustrent vraiment ces préoccupations. Normalement, en 97, la France aurait dû accepter donc la mise sur le marché d'un maïs résistant à un insecte déposé par, enfin conçu par Novartis, et puis d'un soja résistant au Roundup. La Commission européenne avait validé, la France aurait dû accepter. Bah, que fait le ministre de l'Agriculture de l'époque ? Il fait un arrêté, hop, c'est accepté. Mais quasiment 10 jours après, le Premier ministre, lui, décide de ne pas autoriser la mise en culture des maïs transgéniques et du soja, mais uniquement de réserver à la consommation ces deux céréales. Grosso modo, ça voulait dire, bah non, vous ne pourrez pas cultiver en France,
oui,
etc. Bah,
voilà, c'est ça qu'il faut rappeler. On ne cultive pas d'OGM en France, mais on en mange quand même à cause des importations.
On en mange et justement, il se pose la question aujourd'hui de l'information aux consommateurs. Normalement, il doit y avoir, aujourd'hui, en vertu des directives européennes, etc., il doit y avoir un double étiquetage. C'est-à-dire que le consommateur doit être informé...
Un débat qui a aussi lieu aux États-Unis.
Voilà. Le consommateur doit être informé sur l'emballage que le produit contient des OGM dès lors que la part des OGM dépasse 0,9% du poids. Sauf que, effectivement, aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas dans nos supermarchés, dans nos épiceries, dans nos carrefours contact et complètement... J'ai encore dit... Excusez-moi. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que bah, certains produits alimentaires qui ne contiennent pas plus de 0,9% de leur poids en OGM, malgré tout, ils ont été fabriqués avec des produits animaux et que ces animaux ont consommé des OGM. Voilà.
Mais alors...
Donc, il y a quelque part une fausse information. C'est-à-dire, on dit aux consommateurs, bah non, il n'y a pas d'OGM parce que le poids total de ce qu'on vous vend, il n'y a pas plus de 0,9% d'OGM. Sauf que l'animal qui a été utilisé pour produire, lui, il a pas arrêté de bouffer de l'OGM.
Alors cette question-là, elle est intéressante. Et on voit au niveau de l'élection présidentielle américaine qui a eu lieu en novembre dernier, au même moment aux États-Unis. Alors aux États-Unis, quand il y a une élection, en même temps, il y a plusieurs sondages, il y a plusieurs petites élections. Et en Californie, il y avait... justement une question qui portait sur l'étiquetage des OGM en Californie. Et Monsanto a fait une campagne très importante sur 2 ans, avec beaucoup, beaucoup d'argent investi, pour que ça soit le nom qu'il remporte. C'est-à-dire que pour pas qu'on affiche le fait qu'on tient des OGM. Cette question-là, pour moi, elle est essentielle. Et derrière ça, on essaie toujours de travailler sur le consommateur. Parce que si c'est le consommateur qui refuse les OGM, s'il dit non, s'il n'achète pas les produits estampillés OGM...
Oui, mais Fred, attends, le consommateur qui dit non, sous quel principe ?
Il dit non. À un moment, je veux dire, on a le droit de refuser, comme tu dis, le principe de précaution. On a le droit de se l'appliquer à soi-même.
Oui, mais...
Si après, les connaissances qu'on a, je veux dire, on a quand même des moyens de se renseigner sur les différents produits. Si on fait... La question, elle est là. À limite que toi, tu souhaites manger des OGM et que moi, je ne souhaite pas, ça nous regarde. Toi, tu as le droit de manger des OGM, moi, j'ai le droit de ne pas en manger. Cette question, pour moi, elle est essentielle. C'est le droit de chacun à pouvoir disposer de la vérité. On sait que fumer, c'est dangereux. On a le droit de fumer, on a le droit de ne pas fumer. C'est écrit sur le paquet, il n'y a pas de problème. Les OGM, ils sont potentiellement dangereux. En plus, là, on parle seulement de certains
trucs. Oui, mais potentiellement, mais c'est pas prouvé.
Alors, c'est pas prouvé. Si on parle des maïs, et puis au-delà de ça...
Le problème, c'est la production des OGM. Après, que les OGM soient utilitaires dans notre mode de productivisme, une forme de fordisme de l'agriculture, en fait. C'est ça le problème. C'est un problème économique. Tu parlais de la vache folle, c'est un problème économique qui est au début de ce problème-là. C'est vouloir faire des économies de marché sur ne jamais perdre aucun profit sur rien. Même une carcasse, on va la refaire en farine, etc. C'est ça le fond, ce n'est pas l'OGM en lui-même. Car d'ailleurs, même dans l'OGM qui a été prouvé la toxicité, je me permets de finir, c'est le Roundup qui est toxique. C'est les doses, c'est les pesticides qui, à long terme, sont néfastes pour l'être humain. Et c'est ce que tend même à montrer Gilles Serralini. Et ce n'est pas l'OGM en lui-même. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre même du Nouvel Obs, faire un amalgame, dire OGM poison, ça n'a aucun sens. OGM, ça ne peut pas être un poison, ça n'a aucun sens. C'est suivant ce que tu en fais. Donc le problème n'est pas la recherche scientifique, mais les applications qui sont liées avec la politique et les gros groupes qui pour les applications de mise en place sur le marché. Et là, c'est la défaillance que je pense que Serlani, avec cette enquête, en faisant le buzz, a réussi un peu à démonter.
Mais une pause musicale.
C'est quand même pas l'OGM, enfin, fond le problème.
Une pause musicale et on conclut après.
Allez, pause musicale. Retour sur un art de vie, donc pour une conclusion sur le thème du jour sur les OGM et la fameuse affaire de Serlani. Fred ?
Alors moi, ça va vraiment être pour finir, je vais écourter ce que j'avais prévu. C'est juste pour s'interroger un peu sur le développement des plantes OGM, aussi bien en France qu'ailleurs, et sur réfléchir sur le bénéfice que nous avons à utiliser ce genre de plantes. Le premier exemple que je voulais donner, c'est le modèle indien, où ils ont implanté massivement le coton, le fameux coton BT, en promettant aux agriculteurs indiens une envolée de la production qui a eu lieu premières années, qui n'a plus lieu aujourd'hui. Là, on est revenu exactement au chiffre de départ, c'est-à-dire ces fameuses plantes de coton qui étaient censées résister mieux que les autres sont en pleine perte de vitesse. Les producteurs de céréales, enfin de semences, eux répondent « vous inquiétez pas, on va trouver la solution dans un ou deux ou trois ans », ce qui, eux, ne les inquiète pas parce qu'eux, ils ont les moyens. L'agriculteur indien, actuellement, a une vie difficile. Il l'avait déjà avant l'arrivée des OGM, je suis
avant
d'accord.
Avant l'arrivée de Monsanto.
Par contre, ils sont en train de reconnaître quand même que le taux de suicide est quand même préoccupant dans ces populations, et on peut s'interroger sur l'implication. Alors Monsanto actuellement, pour résoudre le problème, rachète les terres, mais enfin, est-ce que c'est pas une sorte de colonisation aussi un peu, c'est-à-dire que l'agriculteur maintenant ne sera plus propriétaire de ses terres, il sera non seulement obligé de payer la semence, mais il sera obligé de payer un loyer.
Je rajouterais une pierre de plus à ton discours, par exemple en Afrique avec les Malawi, où Monsanto est arrivé parce que c'était un pays qui était en famine, et il est arrivé avec donc ses nouveaux plans, il a permis une superbe production. Donc maintenant, les gens se nourrissent bien, mais ils l'ont fait avec un discours, d'ailleurs, entre guillemets, de charité. En fait, ils ont annoncé qu'ils allaient aider cette population. Donc, ils ont offert gracieusement les semences jusqu'au jour où, en fait, après, ils leur apprennent qu'il faut commencer à les régler. Et là, commencent les problèmes. Et le pays, maintenant, se retrouve dans une dépendance, forcément, économique, parce qu'il ne faut pas quand même rappeler que la nourriture, l'accès à la nourriture et au logement et l'eau, etc., ce sont quand même les ressources et les besoins primaires de n'importe quel être humain.
Voilà. Et moi, je voulais finir sur un dernier pays, un pays en voie de développement, qui est quand même assez développé, mais qui est en train de se prendre de plein fouet cette fameuse crise des OGM, c'est les États-Unis. Parce que depuis le début, ils ont mis tout en place, les agriculteurs se sont investis pleinement dans ce mode de culture. Actuellement, alors aux États-Unis, la technologie représente 94% des variétés de soja et 70% des variétés de maïs. On peut dire qu'ils ont mis leurs billes dedans. Ils n'ont pas du tout eu le principe de précaution français.
États-Unis, Chine, Brésil.
Oui, non, mais là, le modèle pour moi, l'exemple, il est américain. Et donc, actuellement, donc, les agriculteurs américains, ils sont en train de revenir en arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'au bout de 5 ans, toutes ces céréales OGM qui étaient censées résister, eh ben, la résistance, elle marche de moins en moins bien. Et surtout, toutes les plantes qui étaient censées être détruites commencent à résister au Roundup.
Ils sont tombés sur Darwin, quoi. Les plantes s'adaptent, la nature s'adapte, quoi.
Et donc, la consommation de Roundup qui était censée baisser a augmenté. C'est passé de 1,8 million à 30 millions de tonnes.
Alors ça, c'est le paradoxe. Parce donc, que c'est le discours de vente des OGM.
C'est
le
paradoxe, mais en même temps, Monsanto se frotte les mains puisqu'ils vendent à la fois les céréales et le Roundup. Et c'est cette augmentation, tout ça pour arriver à un produit qui ne fonctionne plus. Donc la réponse des producteurs, c'est qu'ils vont créer des OGM multi-résistants, c'est-à-dire que pour le même champ, il va falloir mettre de plus en plus de produits et pour arriver à un résultat qui sera de plus en plus négatif. L'expérience, c'est un agriculteur américain qui dit ça. L'expérience américaine, une agriculture sans agriculteur contrôlée par des entreprises multinationales. Voilà.
C'était le mot de la fin.
C'était le mot de la fin. Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Fred, merci Jérôme.
Merci.
J'en profite quand même pour dire une dernière chose à propos donc, de l'expertise et du gouvernement qui nous a lancé une affaire à propos d'un produit toxique. Je rappelle le monoxyde d'hydrogène qu'on trouve partout. Donc, c'était simplement en fait un canular de l'émission. Je rappelle que le monoxyde d'hydrogène, c'est simplement de l'eau. C'est une formulation scientifique d'exprimer de l'eau. Et c'était aussi pour faire un petit peu de pédagogie, se rendre compte que quand on parle d'une manière scientifique avec des choses qu'on ne connaît pas, eh ben on peut avoir peur de tout.
N'oubliez pas, prochaine émission, dernière de vie, deuxième vendredi du mois, 18h30, 19h30, donc deuxième vendredi du mois. Merci à tous, merci Gonzalo pour la technique.
Merci
prochaine
Gonzalo.
Émission sur l'antenne, normalement je crois que c'est un privé à Babylone qui va souffler ses 100 bougies. Oh, quelle leçon, quelle leçon.
100 ans que l'émission est là,
oh là, là, incroyable. Voilà. Respect.
Merci. Respect l'ancêtre.
Au revoir à tous.
Ciao, ciao.
Merci, au revoir.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif.